Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui, en compagnie d'Étienne, notre étude sur l'Évangile de Marc. Pour commencer, Sandra va nous lire Marc, chapitre 11, versets 20 à 25.
Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec !» Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu, vraiment je vous l'assure. Si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
Merci, et le moment est venu d'accueillir Étienne qui va nous aider à comprendre ces versets difficiles. Bonjour Étienne.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
Jésus, accompagné de ses disciples, repasse devant le figuier qu'il avait maudit 2 jours plus tôt. Oh, bien, s'étonne que l'arbre est séché.
Oui, et il peut être surprenant de constater que Pierre s'étonne ainsi, car n'avait-il pas été le témoin de nombreux miracles de Jésus? N'était-il pas présent lorsque Jésus avait apaisé la tempête ou lorsqu'il avait multiplié les pains? N'avait-il pas vu les gens guérir de maladies et être délivrés de mauvais esprits?
Pierre était-il surpris parce que Jésus avait ôté la vie à cet arbre? Non, maintenant Jésus donne la vie, il guérit, il offre un nouveau départ.
Oui, voilà une remarque intéressante, Yann. Et avant d'en dire davantage sur ce texte que nous venons de lire, nous allons rappeler la signification de ce qui est arrivé à cet arbre.
Oui, lors d'une émission précédente, vous avez expliqué que cet arbre est une parabole vivante, un véritable signe prophétique.
Oui, c'est exact, Yann. Jésus venait de se rendre dans la ville de Jérusalem, lieu de pèlerinage du peuple juif et au cœur de la religion. Là, Jésus a constaté que les traditions religieuses pratiquées dans le temple ne portaient aucun fruit, tout comme le figuier n'en portait pas. Alors, en prononçant ces paroles de malédiction contre l'arbre, Jésus annonce en quelque sorte la fin de toutes les traditions pratiquées à Jérusalem. L'incident dont nous avons parlé la dernière fois confirme cette interprétation. Jésus est entré dans le temple, il y a fortement dénoncé les injustices qui s'y trouvaient, la corruption et les abus déployés à la vue de tous. D'ailleurs, la mort et la résurrection de Jésus va bientôt tout bouleverser, car son sacrifice sur la croix va remplacer et surpasser en valeur tous les sacrifices pratiqués dans le temple. Il va les rendre complètement inutiles. Les paroles de Jésus contre le figuier, dans ce chapitre 11 de l'Évangile de Marc, renforcent cela. Un changement total est en train de se mettre en place. Désormais, au lieu de mettre sa foi dans les traditions juives ou toute tradition religieuse, le croyant devra placer sa foi en Jésus.
Merci pour ces précisions. Essayons à présent de comprendre les paroles de Jésus lorsqu'il déclare que « Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans doute et dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » Étienne, à ma connaissance, personne n'a jamais réussi un tel exploit. Quel est le sens de ces paroles?
Il s'agit bien sûr d'une illustration qu'il faut comprendre au sens figuré.
Est-il juste d'interpréter ces paroles ainsi? Dieu peut réaliser ce qui nous paraît impossible, si seulement nous avions plus de foi en lui.
Oui, il y a du vrai dans ce que vous dites. Toutefois, je pense que dans le contexte de ce chapitre 11 de l'Évangile de Marc, un tout autre sens apparaît.
Lequel?
En parlant de la colline, Jésus vise probablement une colline bien précise.
Laquelle ?
Eh bien, la colline sur laquelle s'étendait la ville de Jérusalem. Souvenez-vous que Jésus était en train de s'y rendre avec ses disciples et il devait la leur montrer du doigt alors qu'il prononçait ses paroles.
Mais quel est le sens de tout cela alors ?
Il s'agit d'un indice de plus que Jésus allait balayer toutes les traditions juives. Les disciples allaient devoir y renoncer. Et pourtant, ils étaient si enracinés dans leur cœur. Ils allaient devoir ne plus pratiquer les sacrifices offerts dans le temple depuis des siècles et des générations. Ils allaient devoir s'attacher à Jésus uniquement et croire seulement en tout ce qu'il allait accomplir. Yann, vous avez dit qu'il est impossible à une colline de se jeter dans la mer, même si nous le lui exigeons de le faire. De la même manière, pour un juif, renoncer à toutes ses traditions, à tous les sacrifices offerts dans le temple, pour simplement croire en Jésus, revient à l'impossible. Et pourtant, beaucoup ont fait ce pas de foi. Une fois de plus, ce qui paraît impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu.
Donc, jeter une colline dans la mer représente une image, celle de la conversion ?
Oui, il est juste de le comprendre ainsi.
Mais quelle est la pertinence de ces paroles pour nous aujourd'hui ?
Tout pays, toute tribu a sa propre culture, ses propres traditions, ses propres pratiques religieuses. La plupart d'entre nous, nous sommes très attachés à ces traditions, à la mentalité façonnée par notre culture, aux cérémonies pratiquées et sacrifices offerts depuis toujours. Puis, Jésus arrive et il explique qu'il faut croire en lui, qu'il faut renoncer aux traditions et pratiques religieuses qui sont en contradiction avec son enseignement. Ses paroles sont troublantes. Ce que Jésus demande correspond à quelque chose d'impossible. Pourtant, Jésus nous l'assure. Placer notre confiance en lui est la meilleure démarche à accomplir. Chers amis, soyez rassurés. Si Jésus vous appelle à vous détacher de certaines traditions pour vous attacher à lui, c'est pour votre bien. Car Jésus vous offre les meilleurs cadeaux, le salut et la vie éternelle.
Mais pourquoi s'attacher par la foi à Jésus plutôt qu'aux traditions ?
Malheureusement, certaines traditions peuvent nous aveugler. Elles peuvent nous emprisonner dans des croyances et dans des pratiques ténébreuses. De plus, aucun sacrifice, aucune offrande ne peuvent être efficaces. En effet, ils ne peuvent régler nos problèmes spirituels les plus fondamentaux. Jésus, quant à lui, est la lumière et la vérité. Jésus peut briser nos chaînes et nous rendre libres.
Mais pourquoi s'attacher par la foi à Jésus plutôt qu'aux traditions ?
Malheureusement, certaines traditions peuvent nous aveugler. Elles peuvent nous emprisonner dans des croyances et pratiques ténébreuses. Et de plus, aucun sacrifice, aucune offrande ne peuvent être efficaces. En effet, ils ne peuvent pas régler nos problèmes spirituels les plus fondamentaux. Jésus, quant à lui, est la lumière, la vérité. Jésus peut briser nos chaînes et nous rendre libres. Seul son sacrifice nous purifie de toute corruption morale et spirituelle. Seul son sacrifice accorde le pardon de Dieu et nous réconcilie avec lui. Nos traditions peuvent se dresser tel un obstacle sur notre chemin, nous empêchant de découvrir Dieu et de nous tourner vers lui. Il faut du courage pour enlever certains obstacles, pour demander à la montagne créée par nos traditions de se jeter dans la mer. Il faut du courage pour admettre que nous avons construit notre vie sur de mauvaises fondations. Il faut une grande volonté pour mettre plutôt notre confiance en Jésus. L'enjeu est de taille. Notre destin éternel en dépend. Il s'agit d'une question de vie ou de mort.
Merci Étienne. Chers amis, nous vous invitons à réfléchir à cet appel et à venir à Jésus. Jésus nous appelle à nous détacher de tout ce qui pourrait nous empêcher de jouir d'une véritable relation avec Dieu, pour construire plutôt notre vie sur son enseignement et avoir foi en son sacrifice.
Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
Les paroles que nous venons d'écouter nous ramènent au thème important du pardon.
Vous avez raison, Yann, de souligner l'importance de ce thème, qui demeure au cœur du message de la Bible. Sans le pardon de Dieu, nous ne pourrions vivre une amitié avec lui. Sans pardonner aux autres leurs offenses, nous ne pourrions être épanouis. Le pardon permet la réconciliation, le rétablissement des relations. Il permet de vivre avec Dieu et avec les autres. Le pardon nous permet de guérir de sentiments négatifs, tels que la culpabilité, l'amertume et la haine.
Mais comment obtenir le pardon de Dieu ?
Le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu peut nous pardonner nos fautes, parce que Jésus a subi sur la croix le châtiment que nous méritions. Sur la croix, Jésus a été frappé à cause de nos péchés. Or, seul ce sacrifice est efficace et suffisant pour obtenir le pardon de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre notre confiance en Jésus et non pas dans les traditions anciennes. Tous les sacrifices au temple annonçaient que Dieu allait intervenir, qu'il allait en Jésus accomplir ses promesses et que désormais, il n'y aurait plus besoin d'offrir d'autres sacrifices. En croyant au sacrifice de Jésus, nous recevons le pardon de Dieu. Or, sans ce pardon, nous ne jouirions d'aucune de ses bénédictions.
Puis Jésus déclare que Dieu ne lui pardonnera pas nos fautes si nous-mêmes nous ne pardonnons pas aux autres.
Oui, en nous pardonnant, Dieu fait preuve envers nous de grâce et de miséricorde. Toutefois, il nous demande de suivre son exemple. Car comment pouvons-nous espérer recevoir son pardon si nous-mêmes nous refusons de pardonner aux autres? Dieu a payé un prix énorme pour que notre relation avec lui, que nous avions brisée, soit rétablie. Alors, il nous demande de faire de même, de faire des efforts pour améliorer nos relations avec les autres, pour surmonter les malentendus, pour pardonner les offenses et pour panser les blessures. Le pardon est essentiel pour briser le cercle vicieux qui consiste à rendre le mal pour le mal. Le pardon est nécessaire pour mettre fin à l'amertume et à la haine.
Mais les propos de Jésus soulèvent une question importante et peut-être troublante. Si nous ne pardonnons pas, cela implique-t-il que nous risquions de perdre notre salut, puisque Jésus affirme que Dieu alors ne nous pardonnera pas non plus?
Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour répondre à cette question très importante. Toutefois, en tenant compte de l'enseignement de la Bible tout entière, je répondrai que non, nous ne devons pas forcément aller jusqu'à cette conclusion. Je vous laisserai pour cela deux remarques. Tout d'abord, pour celui qui refuse d'accorder son pardon aux autres, les propos de Jésus représentent un avertissement. Et il est à se demander si cette personne a vraiment compris le pardon de Dieu, si elle a compris la signification de la croix. Et si elle ne l'a pas comprise, comment alors peut-elle recevoir le pardon de Dieu? Et ensuite, il est possible d'être un chrétien authentique et d'avoir du mal à pardonner aux autres. Dans ce cas précis, le chrétien sait que sa communion avec Dieu est troublée, car il n'éprouve plus la même joie, il n'éprouve plus la même paix. Cela ne veut pas dire qu'il a perdu son salut, mais qu'il ne peut plus jouir dans son cœur de la plénitude des bénédictions spirituelles.
Merci Étienne pour ces éclaircissements importants.
Nous devons à présent terminer notre émission. Et en attendant de vous retrouver la prochaine fois, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.